Je vous souhaite donc bienvenue. Je remercie Dominique et Richard Scoffier d'être là. Donc, Richard Scoffier était invité à nous accompagner dans cette conférence. Et vous-même, donc, vous pourrez prendre la parole en cours ou au moins à l'issue donc, de ce dialogue qui s'établira. Ce que je voudrais dire deux choses. Évidemment, c'est cette exposition, cette conférence. Se fait aussi dans la suite de l'exposition qui s'est ouverte donc le 7 mai dernier dans le cadre de Agora et aussi c'est une annonce, c'est la sortie, la parution du livre de Dominique Lyon qui s'intitule aussi Construction, qui est publié par l'édition X et qui est diffusé maintenant donc, par Arc en Rêve et par les librairies au prix de 25 €, je crois. Donc voilà, vous pourrez l'acquérir dès la sortie de cette conférence. Deux mots donc, pour vous dire que cette exposition est aussi un hommage rendu par Arc en Rêve à cette agence, donc au parcours un petit peu particulier. C'est une agence que Dominique Lyon partage à Paris depuis 1988, l'agence DBL avec Pierre Dubessé, qui est architecte aussi. Dubessé et Lyon sont les auteurs, entre autres projets, de deux exceptionnelles médiathèques, l'une à Orléans, qui a été livrée en 1994, et l'autre à Troyes en 2002. Ces deux œuvres qui ont été unanimement saluées par la critique, et la médiathèque de Troyes a été récompensée par l'équerre d'argent en 2002 décerné par le Moniteur. Donc évidemment, c'est deux repères importants, je considère personnellement, dans l'histoire de l'architecture. C'est depuis l'ouverture de l'agence une vingtaine d'années de projets donc qui se sont écoulés, projets malheureusement pas toujours réalisés, mais ça c'est la réalité de l'architecture, mais toujours c'est des projets qui témoignent d'une démarche conceptuelle extrêmement rigoureuse et exigeante. Donc c'est un peu cet hommage que Arc en Rêve a voulu rendre à travers cette exposition. Et puis par ailleurs, il faut souligner que, et le livre Construction est là pour en témoigner, c'est une des rares agences en France qui fait un travail d'écriture sur son propre travail et qui est sur sa démarche conceptuelle. Et ça, c'est une chose qui nous paraît intéressante à saluer et à souligner, et c'est sans doute ce dont on débattra ce soir. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une bonne conférence et voilà, je laisse la parole à Dominique et à Richard.
Merci. Moi, j'aurais souhaité que le débat, enfin la conversation que je vais avoir avec Dominique se déroule en deux temps. Le premier, donc, parler de l'exposition et ensuite parler du livre. Comme tu l'as souligné, c'est vrai que c'est pas fréquent, quelque part, qu'un architecte s'occupe de son exposition, même si effectivement il y a eu l'exposition piano. C'est pas non plus fréquent qu'un architecte écrive. Et je pense que la position de Dominique donc est finalement assez singulière, à la fois dans son projet d'exposition comme dans son projet de livre. Je pense que c'est, en plus, je pense que c'est un peu absurde de les séparer, mais je pense que c'est, si tu veux, pour je pense que ça permet de clarifier un petit peu le propos et puis d'avoir donc deux parties au débat. Enfin, moi, ce qui m'a vraiment étonné dans ton exposition, quand tu m'en as parlé, même c'était très en amont, c'était l'année dernière, hein, c'est parce que tu m'as parlé de maquettes. Et donc, ça m'a assez étonné parce que pour moi, quelque part, un architecte qui fait des maquettes, c'est plutôt un architecte qui s'intéresse à la sculpture, à l'espace. Et c'est vrai que tu vois, je n'avais jamais vraiment vu ce rapport, disons, plastique dans ton travail. Tu vois, ce n'est pas ce qui m'avait le plus frappé. Hein, peut-être que je t'ai réduit à ça comme ça sans te connaître, mais c'est vrai que j'avais plutôt l'impression que finalement, ce qui faisait tes projets, c'était quand même plus quelque chose donc, qui était de l'ordre du discours, de la parole. D'ailleurs, comme ça a été dit dans la fiche de présentation du débat de ce soir, et puis aussi, quelque part, comme c'est dit dans ton livre, hein, puisque tu reviens à la fin, hein, tu fais donc, disons, une comparaison entre architecture et écriture. Et donc, c'est vrai que j'imaginais, en pensant Dominique Thion, c'est vrai que je ne pensais pas maquette. Voilà. Et en voyant tes maquettes, en voyant ton exposition, bon, c'est vrai déjà que ton exposition, je trouve qu'elle est un peu construite. Mais bien sûr, toutes les expositions, c'est pareil, hein, c'est souvent comme ça. Mais enfin, elle est quand même construite comme un discours, dans le sens où il y a une introduction, avec les panneaux vidéo qui présentent tous tes projets, toutes tes réalisations. Donc on est mis dans une ambiance. Hein. Ensuite, il y a ces maquettes. Et ces maquettes sont divisées dans deux salles. Une première salle avec des maquettes, disons, traditionnelles, des maquettes d'études, qui ne sont pas des maquettes d'études d'ailleurs, qui sont des fausses maquettes d'études, mais qui sont comme des maquettes d'études, qui sont des maquettes d'architectes. Voilà, ce n'est pas des maquettes de maquettistes, hein, qui permettent effectivement d'avoir une simulation donc, assez précise de la manière dont va être construit le projet. Et puis ensuite, dans la deuxième salle, dans la seconde salle, donc, ces installations. Et ces installations, justement, qui permettaient, notamment donc, dans le second projet, celui qui est plus développé, le conservatoire du 17e arrondissement à Paris, qui mettait donc parfaitement en évidence, hein, ce côté plastique de ton travail. Hein. Quelque part, je crois que c'est une fausse piste. Mais malgré tout, c'est un peu ça. On voit des éléments qui sont plastiques. Je pense que c'est autre chose qu'on voit. Et cette autre chose, c'est très marrant, mais je pense qu'on en prendra peut-être dans la seconde partie de l'exposé, parce que je crois que c'est dans ton livre, voilà, qu'on comprend ce qu'est ces maquettes. Voilà, c'est pas les maquettes, malgré tout le respect que j'ai pour lui, les maquettes de Ports-en-Part, c'est pas ça du tout. Je crois que c'est autre chose, hein, de beaucoup plus complexe, hein, et de pas du tout évident, voilà. Hein, bien que justement, voilà, la question de la maquette, hein, c'est justement la question, c'est qu'elle met donc le projet à venir donc dans une certaine évidence par rapport donc au spectateur. Voilà. Et ensuite, peut-être, j'aimerais peut-être que tu répondes, tu vois, une première fois donc à cette question du pourquoi de la maquette, parce que c'est vrai, vous voyez que bon, c'est vrai qu'on peut dire que l'architecture, c'est un truc qu'on peut pas représenter, puisqu'en fait, l'architecture, c'est le bâtiment réalisé, voilà, on va dire le bâtiment, voilà, c'est un petit peu c'est ce qu'on dit bêtement, communément, vous voyez, l'architecture, non, ça se représente pas, c'est le bâtiment réalisé. Mais le problème de l'architecture, c'est pas comme, vous voyez, la peinture ou la sculpture. C'est vrai que la peinture, la toile, elle est terminée au moment donné, vous voyez. Il y a eu donc des études avant, et après on fait plus rien, c'est fini pour l'éternité, on n'y touche plus, vous voyez. Elle reste donc totalement, enfin, identique à elle-même. Tandis que l'architecture, il n'y a pas vraiment de moment de ce type, si vous voulez, parce qu'effectivement, un projet, quand s'arrête le projet, est-ce qu'il s'arrête au moment donc où l'architecte donne les clés au maître d'ouvrage? Est-ce qu'il s'arrête quand le bâtiment est occupé, ou est-ce qu'il s'arrête quand le bâtiment est complètement ruiné? Vous voyez, donc ça pose une question donc très très spécifique, que quelque part ne posent pas les autres arts, ou si cela sont posés, c'est justement donc en référence à l'architecture. C'est-à-dire qu'effectivement donc l'architecture, ça reste un processus perpétuel, et l'œuvre, quelque part, elle ne s'hypostasie pas, vous voyez, en un point de ce processus. Elle est partout. Mais justement, pourquoi ce serait la maquette? Excuse-moi.
Richard, je vais d'abord, je vais répondre à la question entre le texte, la parole, plus que le texte, et les maquettes. Nous sommes des maquettes à l'agence. Je travaille en maquette. Par contre, il y a un travail qui est préalable. Il y a un travail, c'est un peu prétentieux que je vais dire, mais qui est sur l'écriture, disons, qui est sur les mots. J'essaye d'approcher l'architecture, son projet, le projet d'architecture, c'est-à-dire c'est un projet d'architecture, c'est un projet de changement d'état. Il y a une situation qui est comme ci, et puis elle va devenir comme ça. Donc j'essaye de c'est-à-dire qu'il y a un terrain où il n'y a rien, où il y a quelque chose, j'en sais rien, et on va transformer cette situation avec un bâtiment. Et ce bâtiment va être une proposition. Il n'est pas simplement là pour disparaître, ou il n'est pas simplement là pour se faire oublier, pour ne rien dire, il est là pour proposer quelque chose. Et ce projet de transformation, je l'approche d'abord par des mots. Pourquoi ? Parce que les problèmes tels qu'ils sont posés aux architectes passent en grande partie par les mots. Je dis dans le livre, vous ne l'avez pas lu, mais pour dire un état limite de cette, pour illustrer un problème limite, ce point, lorsque nous avons fait le concours pour le pavillon de la France à Séville, pavillon pour l'exposition universelle de Séville, il n'y a pas de terrain à Séville, le terrain est plat et on ne connaît pas l'environnement, puisque les pavillons ne sont pas construits, on ne connaît même pas l'aspect de ces pavillons, puisqu'ils se conçoivent en même temps que le nôtre. La seule chose qu'il y a, c'est des mots, et ces mots sont exactement ceux-là, c'est... On nous demande dans le concours de construire le pavillon de la France pour l'exposition universelle de Séville, dont le thème sera la découverte, sous le double angle de la découverte du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et la découverte de l'espace. Le contexte, c'est ça pour moi. C'est en même temps la demande, c'est autant cette demande-là qu'il va falloir que j'interprète que le soleil de Séville, que le vent, etc.
Je t'interromps, ce sont des mots, très bien.
Ce sont des mots. Donc,
je suis d'accord, mais pourquoi à ce moment-là, si tu veux, dans l'exposition, on ne t'a pas vu, sur des écrans vidéo, parler de tes projets uniquement avec des mots, sans avoir aucune image?
J'aurais adoré ça, mais généralement, c'est réservé à des conférences. Quand je donne des conférences, ça dure 3 heures, je n'arrive pas de parler. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport, j'espère que vous avez tous vu l'exposition, mais cette exposition aurait gagné peut-être à être plus radicale, à sortir du champ de l'exercice obligé de l'architecte, qui est d'expliquer ses projets par des panneaux sur les murs ou des textes sur les murs, des plans et des perspectives, ce que je n'aurais certainement pas dû faire, et se concentrer soit sur des objets, pour donner un rapport physique à des objets qui doivent rester énigmatiques, puisqu'une exposition ne peut pas montrer tout d'un projet. Et malheureusement, un architecte a toujours envie de montrer toutes les photos qu'il a prises de son projet. Il est incapable de faire une sélection, ni même un cadrage. Et il veut expliquer tous les aspects de son projet, plutôt que se concentrer sur 2 ou 3 points singuliers et frappants que les gens pourraient retenir. Alors, tu as raison. On aurait peut-être dû en parler avant, une exposition où j'aurais été en pied en train de parler des projets et j'aurais essayé de les faire vivre uniquement par la parole. Je peux faire un aparté ? Il y avait une chorégraphie, je ne suis pas un fanat de Pina Bausch, mais il y avait une chorégraphie, une des premières chorégraphies de Pina Bausch qui était extraordinaire. Vous savez que les artistes, comme les architectes, se posent la question... qui est une question post-moderne, c'est dire, je peux avoir la photo, s'il vous plaît, que faire ? Merci. Que faire, c'est qu'effarer. Ça, c'est Mario Mertz. Dans cette chorégraphie, il y a un type qui est arrivé sur le bord de la scène, un danseur français, et qui disait, vous voulez que je vous fasse un tour en l'air ? Et hop, il fait un tour en l'air. Vous voulez que je fasse 5 tours en l'air ? Il était évidemment incapable de faire les 5 tours en l'air. Mais on attend toujours quelque chose d'un architecte qui soit de l'ordre de la démonstration. Comme on attend quelque chose du danseur qui soit de l'ordre de l'exercice à la Nourev, je dirais, Rudolf Nourev, c'est-à-dire l'exploit technique. C'est vrai qu'un architecte, quand il est sûr de lui, devrait être capable de se limiter, de dire je me concentre sur un point et je ne donne pas tout. La première expo qu'on avait faite à l'IFA, c'était que des affiches sur les murs. Alors j'ai peut-être perdu de radicalité ou je cherche peut-être autre chose. Mais c'est vrai que ça me manque peut-être de radicalité.
Parce que moi, je ne pense pas. Hein. Ce n'est pas du tout une critique, mais je préfère qu'on revienne là-dessus. Sur les maquettes.
Vous avez vu l'exposition ou... Vous saisissez un peu la chose. C'est vrai que j'aurais pu, puisque je travaille à partir de mots, c'est pas une critique, je ne prends pas comme une critique, je prends comme une ouverture. J'aurais pu expliquer les projets. Et je crois que la manière dont c'est toujours drôle, les projets. Donc voilà, ça aurait pu être quelque chose. Mais en même temps, là, moi je suis assez fatigué des expos où on voit toujours de la vidéo, des gens parler, où il faut le temps, où on est prisonnier d'un temps, du temps de la vidéo.
Et sinon, excuse-moi, donc, dans la sélection, tu as fait voir donc, beaucoup de projets, soit non réalisés, c'est-à-dire des concours perdus, soit des projets en cours.
Ouais.
Voilà, pourquoi ce choix aussi ?
C'est très simple, parce qu'on n'a rien en cours, il n'y en a rien construit depuis 2000. Le dernier bâtiment qu'on ait livré, c'est quoi ? C'est des logements à Montpellier que je n'ai pas montré ici. Et c'est un petit bâtiment que je n'ai pas montré ici parce qu'il est immontrable en maquette, il est même incommunicable. C'est un bâtiment fantôme à Saint-Denis, le bâtiment en forme un peu molle comme ça, qui est un bâtiment blanc qui est dans les... Donc si on ne montre rien de livré récemment, c'est qu'on n'a rien livré récemment. On n'a rien vraiment construit, on a une période un peu noire. Alors là, il se trouve qu'on livre des bâtiments. Alors, il y a une ironie de la chose, c'est que les bâtiments qu'on gagne ne sont pas toujours ceux qu'on voudrait construire, et les bâtiments qu'on perd sont généralement ceux auxquels on est le plus attaché, qui ont une part de radicalité, qui sont les plus forts. Voilà, donc la raison est assurée. Alors, si ça s'appelle construction, évidemment, c'est pour retourner la chose, c'est pour les construire. Avec mes propres moyens. Les maquettes, c'est aussi la manière de faire exister des bâtiments qui n'existeraient pas sans ça, parce qu'ils ne se construiront pas ou parce qu'ils ne sont pas encore livrés. Le seul bâtiment qui va se construire de manière sûre et qui est en cours de construction, c'est la bibliothèque cinéma à Lons-le-Saunier. C'est la première maquette en entrant, celle en courbe et en contre-courbe, là. Voilà. Mais on a terminé les infras, on en est à la dalle du rez-de-chaussée.
Et sinon, pourquoi le choix de ces projets ? Pourquoi ceux-là et pas d'autres qui n'ont pas été réalisés ? Et pourquoi aussi, si tu veux...
Sur cette question-là, parce qu'ils avaient... Parce qu'il y a des bâtiments qui peuvent se communiquer par maquette, il y a des bâtiments qui ne peuvent pas se communiquer par maquette. Tu l'as dit toi-même, c'est très difficile pour un architecte de montrer son travail... en dehors du bâtiment lui-même. Moi, j'admire Piano, mais beaucoup, et je trouve qu'il a une très bonne exposition, mais il y a un fil dans Piano. Quand on en a vu un, on peut comprendre le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Il y a des étapes dans Piano. On comprend, on connaît ses détails, on voit d'où ils viennent, sa culture technique, son humanisme, son intelligence, des matériaux, de la mise en œuvre, etc. Donc, ce qu'on sait sur lui ou ce qu'on perçoit de lui se comprend assez facilement. Tout s'emboîte. Chez nous, rien ne s'emboîte. Il y a une méthode de travail qui est la même sur les projets, mais qui aboutit à des bâtiments différents.
D'accord. Enfin, je crois, excuse-moi, même si effectivement tu as raison, c'est sans doute conjoncturel, le fait que tu as présenté des projets et non pas des bâtiments réalisés. C'est vrai que chez Piano, c'est une exposition de l'architecture, et le parti était complètement différent, puisque là, c'était plutôt le bâtiment utilisé, les usages à l'intérieur du bâtiment.
Oui, mais il a la chance de construire beaucoup.
Oui, mais je pense que, oui, mais aussi chez Piano, je pense quelque part, c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'intérêt pour ce que deviennent les bâtiments. Alors que toi, je pense que finalement, même si tes bâtiments sont très très bien vécus, comme par exemple la médiathèque d'Orléans, je pense qu'il y a peut-être quelque chose, tu vois, un intérêt presque hypertrophié sur la phase projet, projection, qui n'existe peut-être pas chez Piano.
Je ne sais pas pour Piano, mais il y a un intérêt hypertrophié. Oui, je ne sais pas s'il y a un intérêt hypertrophié, mais il y a... une remise à zéro des compteurs devant chaque projet. Donc il y a une mise en danger. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. En tout cas, je n'établirai certainement pas de comparaison entre Piano et ma pratique, parce que je risquerais d'y perdre des plumes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a on n'accumule pas dans notre architecture des savoir-faire ou des réflexes ou des esthétiques ou des... Il n'y a pas une recherche esthétique qui s'emboîte d'un projet à l'autre.
Non, ça, il y a très très peu de récurrences formelles.
Il n'y a pas de récurrences formelles.
Il y en a quelques-unes quand même, malgré tout, si tu veux, qu'on pressent comme ça, mais ce sont presque... on sent très bien qu'elles ne sont pas, disons, prises en charge dans la démarche. Quoi. Elles arrivent comme ça, comme par exemple... Bon, c'est ridicule de dire ça peut-être, mais c'est vrai que, tu vois, il y a une récurrence un peu bête entre le... entre le, à Orléans, par exemple, les jupes d'Orléans en métal, et puis donc les jupes donc du bâtiment pour ces villes, tu vois, du projet pour ces villes,
ou aussi ah, de, c'est, ah oui,
tu vois, pour ces villes, tu vois, ou alors peut-être
ah, y a
aussi
la jupe, oui.
Et aussi il y a apparemment aussi il y a le disons le, l'ouverture hexagonale qui revient d'un projet à l'autre comme ça, mais c'est totalement ce qui est intéressant dans tes projets justement, c'est qu'ils sont tous très très différents les uns des autres, et on trouve très très peu de récurrence. Alors comment tu peux expliquer ça? Donc pourquoi ça? Pourquoi? Et pourquoi aussi, si tu veux, tu vois, malgré tout cette attention à la forme, à la maquette, puisqu'en général justement ceux qui s'intéressent à la forme, tu vois, on a l'impression que, comme tu le dis toi dans ton livre, tu vois, on a l'impression que les formes s'engendrent d'elles-mêmes. Tu vois, chez Guéry par exemple, il y a un travail sur la forme, et puis les formes s'engendrent d'elles-mêmes. Tu vois, on passe presque naturellement, donc son bâtiment pour le bâtiment Los Angeles pour Disney, donc au Guggenheim, du Guggenheim donc au chez Avin, donc en Espagne, enfin, les formes s'engendrent d'elles-mêmes, il y a pas de, comme si c'était voilà, comme si c'était l'importe, enfin voilà, y a, comme si c'était presque des formes inhumaines comme ça qui s'engendrent d'elles-mêmes. Toi, c'est pas ça du tout.
Non, c'est pas ça du tout, parce que Frank Gehry travaille à partir d'une liberté qu'il a prise par rapport à lui-même, je crois, et par rapport à l'architecture. Frank Gehry a été éduqué, je ne vais pas parler trop longtemps de Frank Gehry, mais il est dans un pays où le poids du corporate, des grandes agences, est énorme, et il a su s'en libérer. Et je crois qu'il remet constamment cette forme de libération, cette libération, qui correspond aussi à une cure analytique chez lui, à une libération d'une série complexe, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose sur l'expression. Il s'est exprimé. Et comme il a une vraie culture artistique, il est véritablement cultivé, et il a toujours cette espèce de naïveté, Frank Gehry. C'est pour ça que dans le livre, je le compare à un enfant qui joue, enfin un Gargantua, parce qu'il manipule des formes énormes avec une très grande liberté. Et il connaît le pouvoir provocateur de ces formes et libérateur de ces formes. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça tourne peut-être un peu en rond, ça devient peut-être un peu attendu, ça devient une marque de fabrique. C'est un enfant qui fait toujours la même chose. Bon. Mais pour ce qui est de notre pratique, c'est très différent. Je dirais, comment prendre un exemple ? Je fais très attention. Moi, je suis quelqu'un très appliqué. C'est-à-dire que je suis tellement appliqué que ça me permet de dire des choses que personne n'attend. Par exemple, quand je parlais de Séville et de ce programme, j'écoute toujours ce qu'on me dit. Je fais très attention aux situations dans lesquelles je me trouve. Je ne m'intéresse que aux situations dans lesquelles on me met. Et c'est ces situations qui sont déclencheurs chez moi de textes, d'histoires, de récits, enfin d'arguments, je dirais. Je fais très attention à la manière. Je veux toujours expliquer mon architecture. Encore une fois, mon architecture est très argumentée, même si quelquefois ça part dans des directions qu'on n'attend pas. Mais tous mes arguments s'emboîtent les uns dans les autres. Les situations auxquelles je suis confronté, c'est-à-dire ce que je décris un peu dans le livre, les situations, c'est un client, c'est un sujet. Le sujet, c'est très simple. C'est lire, enfin pour une bibliothèque, ou étudier, c'est habiter pour notre logement, c'est travailler dans un immeuble de bureau. Ces sujets sont toujours les mêmes, ils sont récurrents, ils sont toujours les mêmes. Les sites ne sont pas très différents. Les sites en périphérie de ville se ressemblent tous plus ou moins. Les sites en centre-ville se ressemblent tous plus ou moins. On est tous plus ou moins alignés, il y a un immeuble en pierre là, il y a toujours une vieille église dans le coin, il y a une route, il y a un carrefour. Donc les contextes physiques ne sont pas si différents. Je crois qu'on surévalue en architecture le contexte physique. Il est toujours un peu la même chose. Les budgets sont toujours... On est toujours fauché. L'univers normatif, il est toujours plus fort, il est toujours plus contraignant. Bon, donc les situations dans lesquelles on se trouve sont finalement à peu près toujours les mêmes. Pourtant, elles sont toujours totalement différentes. C'est-à-dire que, encore une fois, construire en centre ancien, construire en périphérie, construire peu cher, construire avec des normes, construire avec un client qui a une ambition, mais son ambition, il ne la tient pas vraiment, les situations se répètent. Par contre, si on les regarde bien, si on introduit des détails, des dysfonctionnements, des tensions dans cette espèce de petit monde qu'on a sous les yeux, tension entre les ambitions du client, le sujet, le projet qui est le projet que doit porter un architecte. C'est un projet humaniste, c'est un projet de transformation, c'est un projet d'épanouissement, épanouissement dans l'habitation, épanouissement dans le travail, épanouissement dans l'étude, épanouissement... Bon. Eh bien, on se rend compte que les situations dans lesquelles on se trouve sont extrêmement conflictuelles. Je peux donner des exemples de conflits très, très vifs et que tout le monde peut comprendre. Ces conflits sont jamais aussi forts et aussi clairement établis que dans le logement social. On vous expliquera, dans le logement social, il y a une logique économique et une logique environnementale qui fait qu'il faut vivre dans des petits appartements avec des petites fenêtres. Un architecte doit se dire, et on vous dit, il n'y a pas d'argent. Or, le lien entre la surface, les petites fenêtres et l'argent n'est pas évident. Et l'architecte, et le conflit est très simple, si l'architecte dit, mais attendez, je ne vois pas pourquoi moi je ferais vivre des gens en fonction de contraintes artificielles, alors que je pourrais les faire vivre, si on me laissait un peu tranquille, avec des plus grands appartements, mieux éclairés, avec des cuisines mieux, avec des zones, une pièce supplémentaire, etc. J'en parle parce qu'on l'a déjà fait. Or, tout va aller contre ça. Les règles urbaines, les règles handicapées, les règles de sécurité, le calcul des loyers, etc. Donc, ça, c'est une forme de conflit qui est pour moi génératrice d'une forme d'architecture. Mais il faut absolument, dans le logement, il faut se battre contre beaucoup, beaucoup de choses. Mais si les choses ne sont pas différentes, si les projets sont différents, c'est que j'aborde les situations, ces situations qui sont toujours les mêmes, sous l'ordre, d'abord par une observation, j'essaye de décrire les choses que j'ai sous les yeux, et la deuxième chose, je l'envisage sous la forme du conflit. Pour moi, les situations sont conflictuelles. Une situation sans conflit n'est pas une situation porteuse d'architecture. L'architecture est un conflit, ne serait-ce parce que c'est un projet de transformation. Donc on est toujours en conflit avec quelque chose. C'est rarement là où on pense que c'est...
C'est vrai, mais tu ne présentes pas du logement dans ton exposition, c'est plutôt des équipements. C'est plutôt des équipements qui sont relativement simples, des médiathèques. Et ensuite...
C'est pas des projets simples, la médiathèque.
C'est peut-être moins complexe que le logement. Que le logement social, avec justement toutes les contraintes dont tu as parlé. Et, excuse-moi, mais surtout, ce que je trouve intéressant dans ta démarche, on a l'impression vraiment que quand tu arrives sur un site, effectivement, comme tu l'as dit, les sites sont tous pareils, mais ils sont tous très très différents. Tu fais presque la psychanalyse du site.
Oui.
Donc, effectivement, tu arrives à trouver des choses qui ne sont pas du tout évidentes, notamment pour... les maîtres d'ouvrage. Par exemple, pour la médiathèque d'Angoulême, le projet que tu as perdu, bon, c'est évident que peut-être le maître d'ouvrage, il avait une idée de sa ville, une ville balzacienne, parce que Balzac a écrit sur Angoulême,
oui, ouais.
Parce que c'est une ville médiévale. Et toi, tout de suite, effectivement, tu as plutôt articulé ton bâtiment avec la gare, en disant qu'Angoulême, aujourd'hui, c'est plus l'Angoulême du 19e siècle, c'est l'Angoulême du 21e siècle, et c'est l'Angoulême métropole. Et on ne peut pas faire la métropole donc sans la gare et sans les flux qu'elle draine.
C'est pas tout à fait ça.
C'était peut-être le seul projet, un des rares projets donc, à prendre à retourner le site et à voir les choses comme celle-là.
Non, c'est plus grave que... Moi, c'est plus grave que ça. Le cas d'Angoulême, je ne sais pas si vous connaissez Angoulême, c'est une médiathèque qui est le long des voies ferrées. Encore une fois, moi, je n'ai pas d'opinion sur les choses, j'ai l'opinion sur ce qu'on me dit et sur ce qu'on me présente. Ce qui était dit à Angoulême, c'était, un, il y a une rupture entre une ville haute et une ville basse, qui est une rupture historique que la médiathèque doit aider à combler. Généralement, et c'est très bien, les équipements culturels servent à redynamiser des lieux qui ont été délaissés, soit en périphérie, soit près de coupures. Alors là, la coupure, c'est une coupure topographique, puisque la ville haute est à plus de 60 mètres plus haut que de la ville basse. Et il y a une coupure du faisceau ferré, ces voies qu'on prend pour accéder, pour aller à Bordeaux. Donc, il y avait le maire nous avait dit, ou en tout cas, c'était dans les attendus, dans le brief du programme, rupture historique. La médiathèque est là pour absorber cette rupture historique. C'était dit, souligné même par l'architecte des bâtiments de France. On citait Balzac en disant la ville haute et la ville basse. Donc c'était dit. L'autre chose qui était dit, c'était c'est une médiathèque pour le 21e siècle. Pour les nouveaux usages, il faut réfléchir aux nouveaux usages, à intégrer des nouveaux publics. On nous sortait les personnes âgées, les chômeurs, etc. Pourquoi pas, quand on veut, généralement, on veut faire pleurer les chaumières quand on veut se donner une bonne conscience. Bon. Donc tout ça, c'était dit, c'était des choses qui étaient... bon, les responsabilités. Moi, j'ai traité de ça. Je n'ai même traité uniquement que de ça.
Ça mais tu as articulé la médiathèque organiquement avec la gare. Et tu es le seul à l'avoir fait. Parce que quelque part, si tu veux, la séparation entre la ville haute et la ville basse, ça, c'est une problématique effectivement du XIXe siècle. C'est plus du tout la nôtre aujourd'hui. Il n'y a plus de ville basse ni de ville haute. C'est une ville territoriale.
Oui, sauf que ça manque. C'est vrai qu'il manque d'un équipement culturel ici. Et il fallait que cet bâtiment, il me semble, fasse corps avec la ville, c'est-à-dire avec une passerelle qui traverse la voie ferrée. Et que cette passerelle prenait une importance... d'autant plus grande qu'elle débouchait sur un lieu d'où, de la ville basse, on pouvait regarder la ville haute et que la ville haute pouvait regarder comme une place. C'est Beaubourg à l'envers. La grande intelligence de Beaubourg, c'est ce que j'avais expliqué au maire. Il y a deux choses que j'ai expliquées au maire, ce qu'il n'a absolument pas comprises. Pourtant, il les avait dites. Et pour moi, c'est pour ça que j'accorde autant d'importance aux mots. Parce qu'on est dans des sociétés où les mots ne comptent pas. Plus on est dans des sociétés qui ont été marquées par des grandes idéologies où les mots ne voulaient plus rien dire, les mots de paix, de justice sociale ne voulaient rien dire, on l'a découvert après la chute du communisme, et on trouve aujourd'hui que les discours de communication politique utilisent des mots qui ne veulent plus rien dire. Et au contraire, et c'est même révélateur qu'un certain nombre de mots apparaissent dans le discours politique à partir du moment où les choses qu'ils désignent ont disparu. Je disais tout à l'heure à une personne que tout le monde parle d'espace public maintenant, au moment où l'espace public a disparu. Alors on me dit, oh, l'espace public n'a pas disparu. L'espace public a disparu, je peux vous le prouver. L'espace public est quelque chose qui est fini. Angoulême posait deux problèmes. Ce problème qu'est-ce qu'un équipement culturel aujourd'hui dans une ville qui peut encore maîtriser son urbanisme ou son développement urbain autour d'un équipement culturel. J'avais dit au maire que s'il voulait faire un équipement culturel du troisième type, il fallait l'ouvrir à... Il ne pouvait pas se contenter d'être un équipement culturel qui était livré à un conservateur de bibliothèque, en l'occurrence. Qu'il fallait qu'il ouvre à des associations, par exemple. Et qu'il était d'autant plus important que de livrer à des associations qu'il avait... cette responsabilité de redonner une visibilité à cette bibliothèque urbaine, créer une place urbaine. Cette place urbaine, pour moi, ne pouvait pas être au sol, elle pouvait être qu'en haut de la bibliothèque. Bon, donc c'est pour ça qu'on rentre par la bibliothèque par en haut et par en bas, et qu'en haut, il y a une place à 20 mètres du sol, donc à peu près au barycentre de la ville, qu'on voit de toute la ville. Une place où il peut y avoir des concerts, des débats, des projections, etc., etc. Donc, mais ça devait être livré à des associations. Il y a une très forte résistance, pourtant c'est cela qu'on nous posait comme problème. Donc ça veut dire que, moi j'accorde de l'importance aux mots, parce que je pense que dire les choses, expliquer les projets, même si c'est quelquefois un peu, ça paraît un peu scolaire ou artificiel, c'est quelque chose d'essentiel. Toute l'architecture devrait être fondée sur des raisons, des arguments et une rhétorique. Alors, si j'ai cette approche, qui est une approche argumentaire, je peux expliquer les raisons de tous mes bâtiments. Pourquoi ceci et cela ? Ensuite, il y a la question de la forme et la question de la maquette.
Excuse-moi, par exemple, dans l'exposition, tout le monde l'a vu, l'exposition, parce que vous l'avez tous vu, c'est ça ? Bon. Dans l'exposition, donc, tu vois, tu as le projet donc, pour le conservatoire du 17e arrondissement. Et notamment, il y a un truc qui est complètement déconnant, si on veut, parce que le conservatoire du 17e arrondissement, il tourne sur lui-même, sur un axe, comme une planète. Hein. Oui. Donc, on pourrait se poser la question. Enfin, peut-être, bon, peut-être effectivement, ce sont que c'est un pur délire de ma part. Mais je vois là, tu vois quelque part, malgré tout, une vraie lecture du périphérique. C'est vrai que le périphérique. Oui, bien sûr, parce que le périphérique, c'est pas du tout, tu vois, le boulevard ou le ring. Le nouveau ring du XXIe siècle, parce que l'intérêt du périphérique, justement, contrairement peut-être au ring viennois, c'est que par moment tu rentres dans le sol, puis par moment tu en ressors. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film magnifique de Tarkovsky, ça s'appelle Solaris. Il y a un long travelling sur le périphérique moscovite, c'est la ceinture des jardins, où justement le périphérique sort du sol, il passe sur des ponts, et après il rentre dans le sol. Et tout ce long travelling, en fait, ça a pour but de nous faire comprendre que le personnage principal donc va partir dans l'espace. Donc il y a un côté vraiment un côté complètement spatial donc dans le périphérique. Et c'est vrai que c'est un objet là qui n'est plus fondé, hein, qui donc flotte dans l'espace. Quelque part, il permet, tu vois, de pointer cet aspect du périphérique. C'est pas le nouveau ring du XXIe siècle, mais qui est autre chose. Et quelque part, effectivement, on devrait le conserver tel quel. Et effectivement, les bâtiments qui devraient être construits autour du périphérique, ce devraient être des bâtiments capables d'entrer en lévitation, de ouais. flotter, tu vois, d'être complètement entraînés par ce mouvement.
Alors, oui, alors évidemment, dans l'expo, le bâtiment tourne parce qu'il est vu en mouvement. Très peu de personnes qui marcheront sur cette rue ici. Et il y a, je ne sais pas combien, de centaines de milliers de personnes qui passent quotidiennement sur le périphérique, dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas quel est le débit du périphérique, mais c'est gigantesque. Alors, évidemment, c'est un bâtiment qui est vu en mouvement, c'est un grand truc. Il y a une autre chose, le périphérique. Je me souviens qu'il y a quelques années, à Paris, on demandait à des architectes de prendre des bus qu'on prenait Place de la Concorde, et chacun devait balader. Le public s'inscrivait pour un bus et faire une balade dans Paris pour les bus, avec un architecte qui explique, alors je sais pas quoi, les quartiers haussmanniens, les ponts de Paris, la tour Eiffel et le Champ de Mars, etc. Et moi, j'avais choisi le périphérique. Alors, évidemment, il y avait 4 personnes dans le bus pour aller voir le périphérique. Je voulais expliquer l'écologie du périphérique, pourquoi il est comme si un endroit, comme ça, l'autre, etc. Mais c'était surtout pour montrer le paysage de la ville, de faire le tour de la ville, de se mettre en orbite autour de la ville, de voir ce paysage de loin, comme on tourne autour de la planète, de se mettre à distance. Je me souviens très bien d'une petite dame qui était rentrée, que j'étais un peu surpris. Je lui ai dit, elle me dit, je viens chez vous parce qu'il n'y a plus de place pour aller voir les ponts de Paris, dans le bus des ponts de Paris, donc je vais voir le périphérique de Paris. Ça voulait dire deux choses. Et cette dame est sortie, elle était très contente, elle m'a dit, je suis enchantée. C'est-à-dire deux choses. Les représentations qu'on se fait de Paris sont des représentations qui sont historiques, alors que Paris est une ville qui est définie autant par sa périphérie, son périphérique. Donc, les expériences urbaines qu'on peut avoir avec la voiture, le RER, le métro, que sous les ponts de Paris. Aller sous les ponts de Paris, c'est très très peu de personnes. Aller sous le périphérique, c'est des centaines de milliers de personnes. Donc la perception qu'on a des espaces et de la ville est évidemment très variable. Mais le périphérique, je l'ai pas vu exactement comme ça dans le projet.
Et tu vois, bon, sinon, si on quitte un petit peu la question du site, moi, ce qui m'a aussi vraiment fasciné, je t'en avais parlé, c'est le fait que tu puisses utiliser, si tu veux, sans aucun complexe, tout le vocabulaire de l'architecture qui est à ta disposition. Tu vois, tu te dis pas, bon, je suis moderne, donc je vais faire du verre, ou je vais être transparent, ou je vais travailler sur du verre opalescent. Mais tu peux très bien employer des murs très très épais, comme c'est le cas donc pour la médiathèque de Laurent Saunier. Hein. Tu dis pas, j'ai fait pas de fenêtre, tu vois, donc, à Laurent Saunier c'est pareil, et donc on revient donc à la fenêtre, même si c'est pas n'importe quelle fenêtre. Tu vois, tu ne dis pas, je vais pas faire de toit. Il y a des bâtiments toit. Enfin, tu vois, tu revisites, mais d'une manière totalement décomplexée, donc un petit peu les fondamentaux de l'architecture, sans aucun ostracisme.
Le problème de la forme est un problème qui idéalement vient tard chez moi. Là, je peux avoir des intuitions formelles, mais je me méfie toujours de mes intuitions formelles. Alors, quelquefois, je triche, j'ai une idée de forme et que j'assieds sur des raisonnements qui viennent après. C'est-à-dire, je construis des histoires après. Ça, c'est un peu malhonnête. Mais je me trouve des justifications à ça. Par contre, je pense, je reviens à cette idée de la situation, les situations étant toujours à peu près similaires, mais toujours quand on les regarde bien, elles sont toujours différentes. Il y a un moment où je construis une série de raisons. Je pourrais l'expliquer là, mais tu ne veux peut-être pas sur le conservatoire. Je me crée, j'aime pas le terme scénario, mais je me crée une série d'arguments. Et à partir de là, je cherche une forme qui exprimerait cela. Et si tu veux, beaucoup d'architectes, quand il s'agit de transformation, se posent ou se rassurent, font des paris sur des visions qu'ils ont. Voilà. L'architecture doit correspondre à l'époque, alors elle doit utiliser le virtuel et je simplifie, hein, et les découvertes sur la biotechnologie, etc., aidées par les ordinateurs et tout, je sais pas, tu vois, des choses comme ça. L'architecture doit être à l'échelle de la métropole, alors on doit faire des choses qui sont comme ci, comme ça, et mettre une fonction là, puis une fonction là, puis une fonction là. Il y a des discours architecturaux qui sont des discours qui vont construire une posture architecturale, qui est la posture de l'architecte. Moi, j'aborde ça vraiment dans l'autre sens, en disant, je ne sais rien que je n'ai pas construit à partir de l'endroit où on me place, où je suis placé. Et je ne regarde que ce que j'ai sous les pieds. C'est-à-dire, je refuse de parler d'art, de technologie, de tel ou tel matériau, des ordinateurs, de la chute de la bourse, de la mondialisation, etc. J'ai des idées là-dessus, évidemment. Je ne vais pas vous les communiquer ici, mes idées sur la réforme de la retraite ou la guerre en Irak ou je sais pas quoi. Donc, c'est des idées que je garde pour moi. Et je pense que ça n'a rien à voir avec l'architecture. Par contre, il y a quelque chose, quand j'ai parlé de transformation, qui est un projet moderne de transformer la vie des gens, c'est un projet moderne, qui a un certain rapport à l'héroïsme. Beaucoup d'architectes ont une posture de héros. Ils ont des visions, ils veulent transformer. Donc ils ont une cause. Moi, j'ai pas de cause. Moi, mon personnage, c'est Don Quichotte. Et encore, c'est plutôt l'âne dans Don Quichotte, sur lequel est assis Sancho Panza. C'est aussi l'âne dans Shrek, d'ailleurs. Je pourrais vous en parler, mais c'est Don Quichotte, c'est qui ? Don Quichotte, c'est un fou. Je ne suis pas fou. Qui a mal lu les choses, une mauvaise littérature, et qui va faire des histoires de tout. Il voit un moulin à vent, il fait une histoire formidable du moulin à vent. Il voit des gars qui trimballent des pommes de terre, il pense que c'est des lions en cage. Il surinvestit les situations. Alors évidemment, il est fou. Mais Cervantes, il n'était pas fou. Il se sert de ça pour dire que la réalité, dans ce qu'elle a de plus trivial et de plus répétitif, il vit Don Quichotte dans un petit village en Espagne au 16e, au 15e siècle. C'est quelque chose de figé. Ça ne bouge, rien ne bouge. Et il surinvestit et il est un héros. Et c'est son propre héros. Je dirais que l'architecte doit créer les conditions de son propre héroïsme à partir de rien, à partir de la trivialité. Je suis très frappé de voir que, si je ne pas parler de moi, mais parler de Coulas, un jour je ferai une conférence peut-être à ton école sur trois maisons, une maison héroïque, deux maisons héroïques, une maison de Frank Lloyd Wright, par exemple la maison sur la cascade avec son porte-à-faux. Le client voulait la maison là, Wright a dit « mais non, on va le mettre sur la cascade ». Donc c'est une forme, c'est chercher le contact avec la nature un peu héroïque. La ville de la Savoie, c'est une épiphanie, c'est une découverte, c'est le monde nouveau qui porte tout le classicisme et qui l'a transformé. Bon, la ville de la Savoie, c'est pour l'homme nouveau, actif. Donc les temps étaient héroïques, ou la nature, l'homme dans la nature était héroïque, ou l'homme dans son temps était héroïque. Coulas, quand il construit la villa de Bordeaux, son héroïsme est autre part. Et c'est ça qui est intéressant. Il crée des conditions qui sont à la limite de l'absurdité, des porte-à-faux, cette mise en scène du handicap, cet énorme ascenseur, cette mécanisation de la maison. Il fait toute une histoire de quelque chose qu'on aurait pu passer sous silence pour parler d'architecture. Or, il ne parle pas d'architecture, il parle de la posture de l'architecte qui doit soulever des montagnes et mettre en tension les choses. Et ça, moi, je me sens non pas... c'est une question d'éducation et de souci de soi. Je n'ai pas la carrure de Rem Koolhaas. Je viens d'autre part. Donc je me sens plus proche de Cervantes, avec son bras qui lui manquait. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ça. Je surinvestis des situations. Et ce qui compte, c'est évidemment la cohérence de ce qu'on dit, et la cohérence de ce qu'on dit sur un projet, elle prend de la gravité s'il est en correspondance exacte avec ce que la société a dit sur le sujet. La société, pour moi, c'est un maire, c'est un client, etc. etc.
Non, j'ai bien compris, mais tu n'as pas vraiment répondu à ma question, mais ce n'est pas grave. Par contre, je vais t'en poser une autre, un peu semblable presque, tu vois, parce que j'ai l'impression aussi, tu vois, comme effectivement tu utilises d'une manière complètement décomplexée les fondamentaux de l'architecture, mais qui peuvent induire justement...
Attends, alors, je vais répondre à ta question. Pour moi, oui. L'architecture, c'est un corpus. Qu'est-ce qui invente ? Qui a inventé en architecture ? Il y a très peu de... Les inventions en architecture sont extrêmement rares. Je ne pense pas que Koolhaas invente. Koolhaas réarrange les choses.
C'est clair.
Si tu veux, Mies a inventé quelque chose. Les inventeurs sont vraiment extrêmement rares. Donc, l'histoire de croire qu'on va réinventer, le cinéma ne se réinvente pas. Qui a réinventé en littérature? Je ne sais pas qui vous lisez actuellement, mais est-ce que vous pensez que c'est des gens qui ont réinventé? On réinvente des styles, une manière de manier la langue. Mais on a inventé le roman. Peut-être d'ailleurs c'est Cervantes qui a inventé le roman. Parce que Cervantes écrit son roman, puis on copie son roman et réécrit son roman en se mettant en scène. Donc c'est fascinant, Don Quichotte. Donc là, il y a une invention, mais il y a des moments où on peut inventer les choses. Il y a d'autres moments où on ne peut plus inventer les choses. Est-ce que le nouveau roman est une invention ? Non, c'est une réaction sur quelque chose. Bon. Donc, je veux préciser juste une chose. Pour moi, c'est une question d'expression. L'architecture, comme la peinture, comme beaucoup d'autres choses, c'est un moyen d'expression. Elle a sa propre logique, ses propres limites et ses énormes possibilités. Donc, ce moyen d'expression dépend de la présence qu'on veut donner au bâtiment, de sa présence, de son poids. Et tu peux chercher l'absence, tu peux chercher à frapper, tu peux chercher à disparaître. Tu as tous les registres qui sont à toi. Mais il y a des moments où tu as envie de parler en riant, en gueulant, en disant des choses sérieuses. C'est la même chose. Ça dépend de ce que tu as exprimé. Donc, c'est vrai, je n'ai pas de, matériaux, et des matériaux que je connais mieux que d'autres, techniquement. Et je me sens plus à l'aise, par exemple, avec le verre, l'aluminium, l'acier, tous ces petits trucs-là que je sais, ça je connais les effets mieux que le béton, par exemple. Mais il se trouve que je construis en béton. Parce que je...
Non, puis aussi, je me trompe peut-être, tu vois, mais j'ai aussi l'impression, donc, que tu fais pas mal de... Tu fais pas mal de références donc à l'histoire de l'architecture. En tout cas, c'est pas ça. Tu as une attitude vraiment, disons, totalement transversale dans l'histoire de l'architecture. Parce que des fois, effectivement, enfin, j'aimerais qu'on puisse en discuter parce que on te sent très très proche, tu vois, de quelqu'un comme Toyo Ito, tu vois, par moment. Mais à d'autres, si tu veux, c'est plutôt Toyo Ito, c'est plutôt Borromini. Là, c'est pas tout à fait le même sens, tu vois. Par exemple, dans la médiathèque de Lons-Saulnier ou aussi dans la médiathèque de Lyon. Ou dans d'autres projets, quand tu utilises comme ça des formes concave. C'est quand même extrêmement rare. Hein. Effectivement, donc,
ça, c'est très baroque, oui.
La forme concave, effectivement, ça permettait donc d'arriver à associer dans un même mouvement donc des éléments qu'il était obligé d'utiliser quand il faisait ses églises, donc les clochers et puis la coupole. Et effectivement, pour ne pas avoir des éléments séparés, mais arriver donc à tout relier dans une totalité organique, il a créé donc ce fameux mouvement concave qui a été ensuite repris par d'autres baroques comme Guarini. Et toi, effectivement, tu le reprends, effectivement, notamment donc à Lansonnier, pour arriver donc à rassembler les éléments épars du paysage. Et je trouve aussi intéressant, c'est que cette référence, tu vois, elle semble aussi télescopée, donc une référence, c'est pareil, pas vraiment glorieuse de l'histoire de l'architecture, comme par exemple Émile Ayot, tu vois, pour son bâtiment à la Défense, tu vois, pour la tête Défense. Et c'est pareil, donc il a fait des bâtiments concaves qui permettent effectivement donc de rassembler l'espace d'une manière paroxystique, là où il était complètement ouvert.
Vous connaissez cette référence, la Grande Borne, Grigny, la Grande Borne.
C'est surtout le projet qu'il a fait pour la Défense qui n'a pas été réalisé. Ça reprend un petit peu la forme d'un four solaire, si vous voulez, voyez. Et ça permet de fermer complètement la perspective. C'est un bâtiment concave qui a pratiquement la même forme que ton bâtiment pour Lansonnier. Hein. Mais tu vois, il y a beaucoup de références comme ça. Et aussi des références, tu vois, dans le verre teinté doré, par exemple, tu vois, ça c'est un petit peu là. C'est même pas des architectes qu'il faut citer, c'est l'architecture des pays de l'Est des années 70, tu vois, Berlin, les bâtiments étaient recouverts systématiquement de ce verre-là. Et donc on a l'impression comme ça que tu opères des traversées, tu vois, un petit peu dans tous les sens de l'histoire de l'architecture. Tu vois, par moment aussi, mais peut-être j'ai complètement déliré, quoi. J'ai l'impression que tu vois, dans ton travail sur Carcassonne, toi tu fais référence donc au grand stucateur rococo, tu vois, comme les frères Azam, tu vois, ceux qui faisaient des gigantesques plafonds totalement vides, tu vois, avec du ciel, avec juste quelques personnages comme ça qui arrivaient donc animer le plafond et qui donnaient effectivement l'impression, tu vois, d'une sorte d'immatérialité, alors que il y avait le maximum de matière parce que il y avait le maximum d'étayage pour tenir ce plafond.
Je ne sais pas si c'est véritablement une question, mais il est très difficile quand je dis que je m'intéresse à des situations, je m'intéresse à un exercice de... J'aime pas le terme raconter une histoire, mais là, les mots manquent peut-être, de trouver dans un projet de transformation de cette situation une série d'argumentaires qui est basée sur des faits, sur ce que j'ai sous les yeux, dans les situations dans lesquelles on me met, qui parlent toujours du client, du budget, du site, etc., etc. Des choses qui peuvent être considérées comme accessoires sur le site, mais qui prennent une importance plus grande. C'est le cas, je pourrais en parler 5 minutes pour illustrer. On est peut-être un peu sec là dans notre propos, il faudrait peut-être une petite illustration. Dans ce cas-là, tous les matériaux valent, toutes les références valent. Le problème, c'est de leur enlever leur connotation, de les déconnoter. Je ne fais pas ça pour citer tel ou tel mouvement architectural, comme Coulas le faisait. Coulas a cité à un moment un certain nom, il a fait référence, parce que son discours portait sur autre chose, sur la ville, sur la métropole, etc. Il a utilisé un vocabulaire qui était un vocabulaire moderne, tel purement moderne, par exemple le bâtiment avec les percé régulièrement. Il a utilisé pour traiter les grandes dimensions un vocabulaire constructiviste, etc. Bon. Donc il a, lui, utilisé l'histoire de l'architecture pour servir un autre discours. Moi, quand je change de matériaux, c'est vrai, je prends des matériaux qui sont un peu connotés, comme le verre miroir ou le verre dégradé ou la courbe, la contre-courbe ou je ne sais pas quoi. J'essaye de le mettre de telle manière que ça soit un mot dans une phrase qui atteigne son but, mais qui ne se réfère pas. Je ne veux jamais avoir de connotation architecturale. Je ne veux jamais ramener à une histoire de l'architecture. Comme ont pu le faire les postmodernes ou comme on peut faire les néo-modernes ou des gens qui font... ou d'autres architectures. Voilà. Mais Donc voilà, donc le registre, de toute façon, je fais des choses très sages, finalement, qui paraissent, je pense, très déconcertantes auprès des maîtres d'ouvrage. Quand je dis qu'ils sont sages, je trouve que mon architecture est infiniment plus sage que beaucoup de gesticulations architecturales qui sont quand même très extraordinaires. Moi, je ne fais pas des choses qui sont ordinaires, je fais des choses qui correspondent à une vision que je suis capable d'expliquer d'une situation. Et moi, ce que je dis, c'est que la réalité elle-même est effarante. Elle est tout le temps bouleversante. On a perdu depuis longtemps, et c'est tant mieux, les recettes pour traiter des sujets de manière normale ou non singulière. On est forcé à la singularité, on est forcé à ce type d'expression. Alors, je ne sais pas, tu m'autorises à montrer un bâtiment ? Tu peux me dire ?
Vas-y.
Juste, on a parlé du périphérique et de ce bâtiment. Je voudrais vous illustrer, je vais être très court, le propos qu'on a eu jusqu'à maintenant. Il s'agit donc d'un conservatoire de musique qui est situé à la périphérie de Paris, conservatoire du 17e arrondissement. La situation est la suivante. C'est un programme assez classique, salle de concert, locaux pour la répétition, les cours, etc., salle de danse et salle d'art lyrique. Trois salles de danse en haut, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Voilà, ça c'est le programme. Le site, c'est le long du périphérique. Et dans un endroit, la périphérie de Paris, ça c'est le Valois-Perret, où on voit la ville constituée là. Et là, ça devient très lâche, très distendu. Ça ne se construira jamais ici parce que c'est une couverture du périph', il y a de grandes voies de circulation, il y a une grande église là, il y a de grands espaces qui sont libres, qui ne seront jamais construits. Donc un espace distendu où on retrouve l'horizon. Et c'est le caractère très positif de la chose. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il faut équiper la périphérie de Paris, ce qui est un projet tout à fait bien. On nous dit aussi qu'il faut être développement durable, là, nouvelles énergies, bon, plan climat de la ville de Paris. Voilà. Ça, c'est un peu le contexte, si vous voulez, la situation. Ensuite, évidemment, la situation, c'est le sujet, le contenu, l'enseignement de la musique. Et évidemment, là, il y a beaucoup de conflits. Des conflits les plus simples à comprendre, c'est qu'on va mettre un équipement qui est dédié aux intervalles des sons, aux sons, à la perception très sensible des sons, proche du périphérique. Qui rend cet endroit très ouvert extrêmement violent, parce que la pression sonore y est très forte. Donc ça, c'est une grande tension. La deuxième tension, il me semble, c'est que les règlements de la ville de Paris imposent de continuer de faire des fronts bâtis. Les fronts bâtis, c'est que les bâtiments se touchent le long à l'alignement sur une voie. Or, le conflit, là, est le suivant. La plus grande qualité de ce lieu, c'est qu'on y retrouve une respiration, une distance. On y retrouve l'horizon. Et il me semble qu'un bâtiment qui se construit le long du périphérique doit être un bâtiment qui doit être vu par l'avant, par l'arrière. L'espace doit tourner autour. C'est-à-dire qu'un front bâti là ne peut pas être perçu depuis le périphérique. Ils s'en foutent, le périphérique, de la construction urbaine. Ils voient des objets dans l'espace. Et ces objets, ce qui fait la qualité du périphérique, ce n'est pas les alignements de la ville de Paris, ce sont des émergences, ce sont des points singuliers, ce sont des affiches, ce sont des signes, ce sont des tours qui sortent, des tours quelquefois même avec des signes, avec marqué, je ne sais pas quoi, là, une marque de Canon, ou je ne sais pas quoi. Bon. Donc c'est ça qui fait la force du périphérique, c'est la vitesse, l'espace, l'horizon, le caractère circulaire, et cet univers de signes à une échelle qui n'est pas celle de la ville, qui est celle de la métropole. Donc, au moment où Paris discute de son destin métropolitain, donc de la grande distance, ce projet est très important. Donc voilà comment moi j'analyse la situation. Je prends ce qu'on me dit au sérieux, la dimension métropolitaine, qui est le vrai sujet de la ville de Paris, l'économie d'énergie, la musique, l'enseignement de la musique, et le périphérique. Et on nous dit, ce lieu est formidable, d'ailleurs, on va y construire des équipements culturels importants. On y construit la Philharmonie d'un côté à la Villette, ce bâtiment-là, je ne sais plus quoi, il y a un hôtel fait par Nötteling, je crois. Bon, donc la tour avec de Herzog de Meuron, donc le périphérique, ça va être le nouveau boulevard. Tout ce qu'on y construit sont des éléments singuliers, qu'on donne à des architectes de renom. Donc tout ça, pour moi, c'est la situation. Donc la première chose que je dis, il faut faire un bâtiment singulier. Alors vous verrez tout de suite que la mise en tension est très forte. Un bâtiment singulier, ce n'est pas possible. Il y a un règlement dans la ville de Paris qui dit que les bâtiments doivent se toucher. Allez savoir pourquoi. C'est-à-dire, ils se touchent. On est capable de comprendre ça si on gagne de la surface. Par exemple, si c'est un immeuble de bureau, on a intérêt à construire sur tout le terrain. Or, ici, on a un terrain, puis on a un programme. Moi, je ne vais pas construire plus que le programme, parce qu'il n'y aura pas l'argent pour le faire. Et j'ai la place de m'écarter de mon voisin pour laisser l'espace tourner autour du bâtiment. Et surtout, pas faire front, un devant et un derrière. Donc, je mets à l'écartement. Voilà la ligne de propriété. Et on me force à me mettre derrière une ligne à 45 degrés qui est prise à 3 mètres sur la limite de propriété. Donc, je suis poussé vers le périph. Mais tant mieux, c'est ce que je veux. Reste que cette règle va contraindre le bâtiment. Et cette ligne à 45 degrés, quand je l'ai vue venir, ça me permet de faire quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'est de dire, je ne veux pas rentrer dans le bâtiment directement. Je veux avoir une espèce de petite cour, un espace intermédiaire qui appartienne à la bibliothèque. Qui sont un espace de décompression, on entendra moins le périph, où les enfants ou les parents pourront attendre leurs enfants, ou les enfants attendre leurs parents. Enfin, une petite place publique, un espace mesuré dans un grand espace. Cet emboîtement des deux espaces m'intéressait. Donc c'est très difficile à faire, et il faut aller contre les règles, jusqu'à l'absurde. Alors l'absurde, quitte à aller jusqu'à l'absurde, eh bien j'ai matérialisé cette ligne à 45 degrés. Il se trouve qu'elle est sur le sud et qu'à 45 degrés sur le sud, on a la meilleure exposition possible pour du truc solaire, là, des panneaux photovoltaïques. Et il n'y a pas de masque. Donc tout ça, ça commence à dire, ben voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. L'autre chose, c'est qu'évidemment, le périphérique, c'est qu'une écologie, encore une fois. Il a son propre fonctionnement. Il fait son propre spectacle. Le spectacle et les éléments qui correspondent au périphérique ne sont pas des éléments, ce n'est pas la taille de la fenêtre, je ne vais pas bien dessiner une fenêtre, ça n'a rien à voir. Ce sont des grands panneaux, ce sont des grands événements simplement mis les uns à côté des autres. Ces grands éléments, c'est ce grand plan, celui-là, celui-là. Alors ça, c'est... on y va. De l'autre côté, là, on doit être à 2 km du bâtiment. Voilà ce qu'on voit, l'église au fond, etc. Bon, donc je vais avoir ça, ça, et deux petits bonshommes ici. Bon. Alors, maintenant, il faut que je fasse décoller tout ça. Quand on y réfléchit bien, on est dans un environnement extrême. On est à l'extrême de la ville. Et la pression du son est extrême. Et mettre un conservatoire là, c'est quelque chose d'extrême. C'est prendre la chose la plus sensible et la mettre dans la chose la plus grande pression. Alors, comme on est dans un environnement extrême, généralement, et comme d'ailleurs la société contemporaine est extrême, généralement, il se pose un problème d'expression. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Comment peut-on créer du beau? Comment peut-on dépasser les conditions ordinaires? C'est-à-dire dépasser les conditions du panneau publicitaire qui est purement trivial, dépasser les conditions de la circulation automobile qui est purement triviale et polluante, dépasser les conditions des constructions sur le Valois-Perret qui sont lamentables, dépasser les conditions qui sont de ce no man's land parisien avec cette espèce de square moche, etc. Et il faut se mettre dans la place d'un Esquimau sur la banquise, en disant comment on arrive à conjurer ces forces, comment on arrive à discuter avec ces espèces de forces écrasantes, la force de la médiocrité, la force de la publicité, la force de la bagnole, la force du vide, etc. Comment on arrive? Il faut trouver une série de transactions. Pour moi, les transactions sont simples. Ce sont ces éléments, ça c'est un masque inuit. J'aime beaucoup les Indiens de l'Alaska, du nord des États-Unis, je veux dire du Canada et puis de l'Alaska, etc., etc. Ce sont des gens qui, au lieu de construire des choses qui étaient réglées sur les règles de l'harmonie, comme les Grecs auront pu le faire, les Grecs ont théorisé les règles de l'harmonie, ils ont pris des choses qui étaient disharmonieuses. Ils ont pris des éléments qui sont une fourchette, parce qu'ils trouvaient des fourchettes avec les naufrages des bateaux, ils n'avaient pas le fer, un poisson, une flèche ou un harpon, une plume d'oiseau qui divinisait, une dent de morse. Et ils l'ont mis sur un masque et tout de guingois, et hop, hop, hop. Et c'est le chaman qui portait ces masques et qui appelait ces éléments pour faire une transaction avec eux. Et ce qui est intéressant pour moi, je m'excuse, je fais une grande discrétion, mais on parle de culture. C'est que dans une position de faiblesse, l'homme ne peut pas en imposer aux dieux. Toute la mythologie grecque, c'est, enfin, grande partie, c'est les hommes qui veulent challenger, mettre des défis aux dieux, ou les dieux qui veulent les femmes des hommes. Donc c'est ce mélange. Chez les Inuits, dans les populations où il y a la pression est extrême, ça ne se passe pas comme ça. Les transactions sont beaucoup plus ambiguës. Eh bien, je pense que tout ça, c'est une métaphore de notre condition. Nous ne sommes plus des héros, nous ne sommes plus des dieux. Encore une fois, c'est Cervantes et c'est pas Homère, c'est Don Quichotte et c'est... Remarque, Ulysse, il était malin. Et ce ne sont pas les héros de la Renaissance ou les héros de la période classique. On ne peut rien affirmer, on peut suggérer. Donc, ce qui m'intéressait là, c'était de mettre, par exemple, deux représentations de l'homme fragilisé sur un poteau en néon qui clignote, un qui danse, un qui fait de la musique. Quand vous voulez appeler les dieux sur la banquise, vous soufflez dans un pipeau et vous tapez des pieds par terre. La danse et la musique, ça a été théorisé par beaucoup de personnes, ce sont les premières expressions et de la religion et de l'art. Donc, pour moi, ceci n'est pas artificiel, puisqu'on va enseigner la danse et la musique là-dedans. Donc, comment exprimer le dépassement des conditions ordinaires? Comment, finalement, le relier aux divinités du lieu? Aux divinités qui sont infiniment triviales. Et heureusement, les dieux grecs étaient rigolards et triviaux aussi. Donc, comment conjurer, comment parler à ces forces extrêmes qui s'expliquent? Alors, tout ça, je vous raconte ça. Mais au bout d'un certain temps, le bâtiment vaut pour lui-même. Enfin, je l'espère. Voilà. Mais alors, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que quand on dit ça à un jury, c'est une forme de suicide. Je disais tout à l'heure que je suis fasciné par une image qui est une image extrêmement profonde, qui est... il est la première image que j'ai montrée à Pechakoucha la dernière fois, qui est Charlot en train de danser devant Churchill. Charlot est en blanc, il est épais comme ça, il danse, Churchill est derrière, il ne le regarde même pas d'ailleurs, ils étaient copains. Il est habillé en noir, il va bientôt prendre en charge la défense de l'Angleterre devant l'invasion, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a tout le poids du monde sur ses épaules et Charlot danse. Qu'est-ce que serait ce monde qui était devenu tragique sans Charlot qui danse? Voilà, c'est la vraie question. Et moi, j'ai l'impression d'être Charlot. Alors évidemment, Charlot, c'est Charlie Chaplin, c'est les studios, etc. C'est une puissance énorme, c'est un génie, etc. Je ne veux pas me comparer à Charlot, mais c'est ça. C'est comment est-ce que la fragilité de notre propos d'architecte, on est forcé à la fragilité et on est forcé à trouver un moyen d'expression qui est inattaquable. Voilà. Ce bâtiment, pour moi, est fort. Alors, évidemment, il n'a pas été choisi parce que je pense qu'on ne fait pas... Je pense que c'est ce que je vois raconter. Non, mais en dehors de ce qu'on attend d'un architecte.
Excuse-moi, tu n'es pas ni Charlot, ni Don Quichotte, quoi. Tu es architecte.
Non, mais d'accord, mais on peut faire des héros.
Je vais justement revenir là-dessus. Je voudrais qu'on termine là maintenant sur ton livre, parce qu'on a beaucoup parlé d'exposition, des projets d'exposition. Et je voudrais qu'on finisse là-dessus, qu'on finisse finalement maintenant vraiment donc par le rapport entre l'architecture et l'écriture, l'architecture et la parole. Enfin, c'est un peu ce que tu annonces dans ton livre. Et ce livre, c'est vrai que je l'ai lu avec. Enfin, j'ai eu très peur de le lire. Excuse-moi, tu vois, parce que j'avais peur que ce soit bavard. Excuse-moi. Mais je l'ai trouvé extrêmement bien. En même temps, je ne sais pas si c'est un livre d'architecture. Hein. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que tu t'engages complètement donc, dans le geste de construire. On n'arrive pas du tout... on a l'impression que ce geste-là, pour toi, il est absolument fondamental. Et c'est même, si tu veux, par ce geste que tu construis, puisqu'il s'agit de construction, ton rapport au monde, tu vois. Enfin, je me rappelle, tu vois, tout le monde l'a étudié donc au lycée, le texte de Sartre, là, dans L'être et le néant, où il parle du garçon de café. Et le oui. garçon de café, donc, effectivement, il veut bien être garçon de café, mais il veut toujours être autre chose que le garçon de café. Hein, c'est un petit peu l'expression de la fausse conscience, quelque part. Hein. Et toi, effectivement, non. Toi, tu es le garçon de café, tu vois. Tu es l'architecte. Et quelque part, c'est intéressant, justement, c'est que on voit très, très bien... Enfin, on voit autre chose. À travers les projets, on voit donc complètement autre chose. Et on voit pas, enfin, je le répète peut-être, mais tu vois, on voit pas justement des bâtiments faits pour d'autres. Non. On voit quelque part un rapport au monde et ton rapport au monde à toi. Parce que je trouve assez fascinant aussi, c'est que tu vois, tu commences à la première personne et la première phrase, le premier titre, hein, c'est Où suis-je, quoi, tu vois. En plus, tu es dans.
Ah, mais il y a 6 ans, t'as que faire et que faire. Mais
c'est, oui, c'est, non, non, c'est où, non, c'est que faire, mais c'est pas que vais-je faire.
Non, c'est où suis-je.
C'est que faire. Que faire, en plus, ça reprend la phrase de Lénine, tu vois, c'est pas rien. Le livre de Lénine, que faire. Trotsky, pardon. Que faire, tu vois, c'est un livre de Trotsky, publié dans la collection 1918, très connu. Enfin, il reprend ça, d'accord. Toi, non, c'est pas que faire, c'est. Où moi je suis, tu vois.
Oui, oui.
Et c'est quand même, ça peut paraître bizarre aujourd'hui, parce que quand même, tu vois, cette hyper singularité, en même temps, c'est vrai, c'est pas une critique, mais tu travailles dans une agence, vous êtes deux, en plus, il y a une équipe avec toi, et ça commence à la première personne.
Oui. Voilà. Alors, c'est très difficile. Oui, exactement. Alors, bon, je citais. Zut. Parce qu'il faut s'engager. C'est-à-dire parce qu'il faut s'engager personnellement. Il se trouve que dans l'agence, je suis en capacité de parler pour moi. Il n'y a de vérité que des vérités personnelles. Il n'y a d'histoire vraie que d'histoire individuelle. Il est très difficile pour un architecte de parler de son travail. Moi, j'aurais adoré que beaucoup de gens, bien avant ce livre, me proposent d'écrire des livres sur mon travail et d'idées et de participer à cette aventure et de me faire connaître pour avoir etc., etc. Il se trouve que ce livre, je l'ai fait grâce à la confiance que m'a donnée Arc en Rêve pour faire cette exposition. Et je me suis dit, je ne peux pas faire une exposition justement seulement en faisant des maquettes, parce que les maquettes, en effet, ne sont pas essentielles dans mon travail. Elles participent, mais ce qui est essentiel et ce qui me distingue et ce qui fonde et ce qui me fonde mon rapport au monde et, à mon avis, ce qui peut renouveler le vocabulaire architectural à une échelle plus large que moi, parce que je suis très prétentieux. Je suis à la fois très conscient de mes limites, mais je me dis que ce que je dis là peut aider à un renouveau critique du discours sur l'architecture, le sortir de discours sur le développement durable, la technologie, le virtuel, etc. Tous ces grands ensembles d'idées qui sont pas bien.
Donc tu as raison, mais en même temps, c'est vrai que ce livre-là.
Alors pourquoi
est unique, je l'ai écrit, tu vois, c'est en fait.
Parce que la seule chose, de la même manière que je ne peux pas parler d'autre chose que des situations dans lesquelles je suis, je ne peux pas parler d'architecture en dehors de la manière dont je la conçois. Je rappelle que j'ai écrit un livre sur Le Corbusier, monument de l'architecture, pas le livre. Le Corbusier. Je ne peux pas écrire un livre sur Le Corbusier. Je ne peux écrire qu'un livre sur Le Corbusier, moi, regardant Le Corbusier. C'est-à-dire, je ne suis pas historien. Et à la limite, la seule chose que je pourrais dire d'intéressant sur Le Corbusier, c'est ce que j'en vois. Et le seul enseignement qu'on peut en tirer, c'est qu'est-ce que vous voyez, vous, de Le Corbusier? Qu'est-ce que vous voyez de Ronchamp? Parlez-moi de Ronchamp. Faites un voyage à Ronchamp et revenez de Ronchamp, qu'est-ce que c'est ? Ah, merde ! Eh bien, moi, je vais vous dire ce que c'est. C'est une chapelle dédiée à la Vierge. Ça, c'est le début. Voilà. Parce que tout le monde en a parlé, ceci, cela. Et merde, c'est une chapelle dédiée à la Vierge.
Non, mais c'est vrai.
Et que... c'est construit non, mais par c'est... le Corbusier.
J'ai pas dit que c'était pas. J'ai pas dit que c'était, donc, c'était incohérent. C'est qu'il y a une cohérence c'est... absolue, si tu veux, dans ce fait de parler à la première personne, et puis le fait effectivement de dire, comme
parce
tu dis dans ton livre, que
plus...
aujourd'hui, on peut
on
pas effectivement partir
des
universels. On est obligé de partir effectivement donc des singularités. Et c'est vrai que ta démarche, donc, elle est extrêmement, elle est totalement singulière. Mais c'est vrai que, je suis désolé, mais t'es quand même aussi le seul à faire ça, tu vois. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui parce que c'est facile de faire des livres qui sont faits par les architectes. Il y en a très peu qui parlent à la première personne. Il y en a très peu qui s'exposent comme tu le fais dans cet ouvrage. Hein. Donc,
oui, 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 voilà.
Et, c'est pour ça que ça s'appelle, alors, l'exposition. C'est vrai que, mais moi, je vous engage, je veux dire, je suis pas un écrivain. Je n'ai pas. Je respecte trop tout ça, etc. Écrire, c'est difficile pour moi. Mais construire et construire de l'archive, tout est difficile. Non, juste une chose. C'est. Je décris là-dedans une méthode. Maintenant, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'honnêteté. Parler de. Soit tu laisses quelqu'un parler de ton travail. Et moi, je serais très curieux, c'est pour ça que je suis curieux, je te remercie de l'avoir lu, je m'excuse, on se fait des compliments en public, mais à un moment, il faut qu'un architecte parle de lui, et il faut qu'il soit jugé sur ce qu'il dit, le rapport, parce que j'ai l'impression de faire des choses, je ne voudrais pas laisser l'impression d'être quelqu'un qui fait des choses très compliquées, très particulières, très pointues. Je suis pas je suis compliqué, mais ça me regarde. Mais les contacts que je peux avoir avec mes clients sont des contacts simples. Ce que je veux dire généralement aux clients, c'est je connais les arguments qui déterminent mes projets, je les ai emboîtés, ils sont sensés et ils partent de ce qu'on m'a dit. Ils ne partent pas d'idées que j'ai à la place du client, d'idées que j'ai préalablement à la découverte de la situation. J'ai ce regard qui est, je me mouille dans la situation. Et bon. Donc, finalement, pour parler de moi, il n'y a que moi. Et je dirais même, j'irai beaucoup plus loin. La seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est ce que je fais. Et je respecte beaucoup, je voyage beaucoup, je vois beaucoup de bâtiments, etc.
D'accord.
Il y a à partir d'un moment où, sans fausse modestie, sans rien, il faut s'engager. Et encore une fois, pour moi, c'est un rapport à la vérité.
Non,
la vérité, c'est moi.
Non, mais ce livre s'appelle « Construction ». Alors, je crois que tu avais fait avant Point de vue et image sur le monde. Bon, c'était très ironique, bien sûr, mais c'est vrai que ton livre parle du monde, et il parle du monde donc à travers ton expérience propre, qui est l'expérience du projet architectural. Et ce qui est intéressant aussi, quelque part, c'est que malgré tout, tu vois, comme maintenant, tu vois, pour parler du monde, tu passes par le projet. Quelque part, les mots, si tu veux, à un moment donné, ils sont complètement épuisés, et donc il faut faire voir des images, il faut faire voir des plans, il faut faire voir des dispositifs qui ne sont pas des dispositifs, disons, textuels. Littéraires, textuels, hein, mais qui sont des dispositifs architecturaux, en tout cas qui font appel à des notations qui sont spécifiques à l'architecture, comme le plan, la coupe, pour parler du monde. Et c'est vrai que, tu vois, c'est pour ça qu'on a l'impression, quand on voit tes maquettes, hein, que plus que des projets ou de l'architecture, disons, comme on en voit chez des architectes, tu vois, il s'agit de sortes de mécanismes orthopédiques qui permettent d'entrer en rapport avec le monde. Tu vois, un peu comme les inventions un peu délirantes de Jules Verne, enfin, pas le Jules Verne con de... on va sur la Lune, c'est pas ça, mais...
Ah, c'est pas con.
Non, je préfère le Jules Verne de... Ah, zut, tu m'as coupé.
Capitaine Nemo.
Non, pas celui-là. Non, non, le Jules Verne de... Du Château des Carpates, pardon.
J'allais le dire. Là, avec l'image de la femme qui chante l'opéra, etc.
Alors, pas le Jules Verne, mais disons... Adolfo Biocasares dans l'invention de Morel, hein, aussi c'est tout un mécanisme,
ouais.
Toute une machine.
Mais j'aime pas l'invention de Morel.
Bon d'accord, enfin il y a une
filiation. Non mais d'accord.
Filiation avec le château de Carpates qui est assez évidente. Tu vois, c'est plus des mécanismes comme ça pour comprendre le monde. Tu vois, plus que finalement des architectures. Bon après ces mécanismes-là, effectivement, donc ils permettent de comprendre le monde. Ils sont aussi occupables, ils sont aussi habitables. Mais finalement, on a l'impression que, tu vois, l'occupation, l'habitabilité, c'est pas le truc premier, comme chez Piano. Puisque lui, Piano, finalement, il a fait voir...
Aussi, c'est le truc premier.
Ah bon?
Mais ouais. Alors, attends.
Excuse-moi, pourquoi on n'a pas vu des bâtiments... pourquoi t'as pas fait voir des bâtiments habités 15 ans après, tu vois?
Pardon. Parce que c'est un autre propos, parce qu'on peut pas tout montrer. Mais non, mais je retourne dans les bâtiments. Je suis retourné, j'ai bâti un bâtiment de logement social, un bâtiment de logement privé. Je ne suis pas retourné dans le privé, je suis retourné dans le social il n'y a pas si longtemps. Mais bon, à la limite, peu importe, moi, j'aimerais... Il faut bien se rendre compte dans la situation dans laquelle on est. Je dirais l'architecture classique, Beaux-Arts, jusqu'à la rupture moderne, elle était entourée de mots. Elle était faite à partir de mots, de dogmes. On apprenait l'architecture dans des... Il y avait des cours d'architecture qui étaient des cours dogmatiques. Donc il y avait un rapport entre le texte et la réalité construite. Les règles de composition, etc. etc. Le bouquin de Lucan, là, est très intéressant à ce sujet. Donc, il y avait des débats là-dessus. Donc, le mouvement moderne, c'est toute une rhétorique. C'est tout un appareil qui cherche à convaincre, à appuyer les choses. Bon, nous sommes dans une post-modernité. Chacun doit se faire son appareil critique, son appareil justificatif. Chacun doit se construire sa méthode. Le gros problème, le gros travers de cette chose, c'est qu'on risque de faire des choses qui ne se rattachent pas au général, qui restent particulières. Si chacun fait sa petite crotte dans son coin en disant « moi, je fais ceci, c'est ma recette, je mets deux pincées de scie et ça, ça m'appartient, c'est mon truc, etc. », ça n'a évidemment aucun intérêt. L'intérêt d'un propos, d'un discours, c'est quand elle se rattache à la réalité. La réalité, c'est la découverte de la modernité. Alors, la réalité, tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est la réalité? J'ai pas de réponse à ça. C'est le client qui me dit ce que c'est que la réalité. C'est le budget qui me dit ce que c'est que la réalité. C'est l'univers normatif qui me dit que c'est la réalité. Moi, j'ai aucune idée sur la réalité. La réalité, non, c'est ce que
j'ai. Mais il y a deux.
Donc,
y a...
l'appareil, les discours, les mots, moi, finalement, j'en emploie extrêmement peu. La différence avec tout ce que je viens de citer, c'est que j'ai besoin de remonter la mécanique à chaque fois, parce que je suis dans un monde qui est comme ça, le monde qui est tel qu'il est, je ne vais pas refaire le monde. Donc, tu vois, je suis seul, c'est pour ça que moi, les figures... Alors, évidemment, je pousse le bouchon un peu loin, parce que j'ai besoin d'exagérer, parce que le rapport à la réalité ne peut être qu'exagéré, parce qu'un projet d'architecture ne peut être qu'exagéré, maintenant. Encore, Coulas, Don Quichotte, ou tout ce que tu veux, le boulot d'un architecte, c'est un boulot qui est quand même un tout petit peu héroïque, mais un héros qui est devenu ridicule. Quand il devient reconnu par tout le monde, etc., je pense qu'il commence à chuter. Donc, c'est pas que je veuille rester obscur, mais il y a cette notion de fragilité de l'architecte devant la réalité qui me paraît importante. Les mots permettent à la fois d'approcher la réalité, à la fois de prendre au sérieux ce que dit le client, les situations, etc., qui passent par les mots, quand même. Et pour moi, j'en explique dans le livre, ça me permet de débloquer le rapport que j'ai à une construction sensée, des arguments qui s'enchaînent de manière logique. Mes bâtiments sont logiques. Alors évidemment, c'est une logique qui peut paraître déconnante. Mais je suis désolé, le petit bonhomme qui chante et qui danse près du conservatoire... Il y a une forme de logique. En tout cas, c'est beaucoup plus logique que le bâtiment qui a été choisi.
Non, mais si tu
veux, il ne peut pas m'expliquer son esthétique, il ne peut pas m'expliquer il ne peut pas m'expliquer ce qu'il fait là. Moi, je sais ce que je fais là. J'apprivoise.
Monsieur, il y a deux manières d'envisager effectivement le rapport de l'universel au singulier. Soit effectivement tu pars des idées universelles et puis tu l'imposes au particulier. Soit tu pars du singulier et tu remontes à l'universel. Toi et comme la plupart des architectes aujourd'hui, c'est plutôt la deuxième position qui importe. Alors que ce n'était pas le cas, effectivement. Par exemple, chez Le Corbusier, c'est évident qu'il y a une volonté, qu'un malgré tout, il n'aurait jamais dit « Où suis-je ?» Il aurait dit « Où sommes-nous ?» Tu vois, voilà, c'est la différence.
Je voudrais juste dire une chose qui me travaille, qui est le fondement de mon interrogation. Encore une fois, je vais sur le côté, je fais une référence littéraire, et je voudrais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est une certaine droiture. Dire des choses, savoir ce que je dis et trouver des formes qui correspondent à ce que je dis et des situations. Je me suis beaucoup interrogé sur le rapport entre le particulier et le général, sur le rapport entre une vision pointue très particulière, comme ce dont j'ai parlé à propos du conservatoire, et la possibilité de s'ancrer dans une raison générale ou une dimension politique, une dimension plus générale.
Il y a deux manières de parler des choses. Une manière politique, une manière globale et une manière individuelle. Je lis, j'en parlais tout à l'heure à une jeune fille, une journaliste, un écrivain qui s'appelle Isaac Bashevis Singer, qui est un prix Nobel de littérature, qui écrivait en yiddish et qui parlait des communautés juives en Europe centrale après la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, c'est un sort, c'est des histoires qui ont fait notre histoire. C'est le trou noir du XXe siècle. Donc il y a une portée générale qui est immensément lourde, dont on n'a encore pas mesuré, à mon avis, tout le poids. Comment en parle-t-il ? Il en parle par les individus. Il fait comprendre la complexité, la difficulté, à tous les points de vue, d'inscription dans la Pologne, de cette folie religieuse, de ce rapport au savoir, à la science, à la folie de ces hommes et aux raisons qui se donnaient, qui est absolument extraordinaire. Et il a cette phrase dans son... Il dit que seules les histoires individuelles sont vraies. Eh bien, je pense que c'est ça. Et la modernité nous a fait croire, ou la fin des idéologies nous a fait croire qu'il fallait parler de généralité pour imposer ses vues. Je pense que le monde si complexe d'aujourd'hui nous montre que c'est le contraire, qu'il faut partir du particulier et qu'il faut arriver à dire des choses vraies et cohérentes à partir de situations particulières. Si on arrive à construire un univers cohérent à partir de situations particulières, eh bien, elles prennent une dimension générale. Donc ça, c'est un peu...
Je crois qu'on va rester là. Je crois que c'est une bonne conclusion pour l'entretien. On va passer aux questions. Si vous avez des questions à poser à Dominique Lyon.
Ou à Richard Scoffier. Ah, bon courage.
Vous avez dit que l'espace public a disparu, ce que vous trouvez.
Ça serait peut-être une deuxième conférence, mais en quelques mots. C'est une incidence très importante sur l'architecture. L'incidence est la suivante. Avant de montrer qu'il a disparu, je vais vous montrer des exemples de sa disparition. Ça vous surprend en tant que Bordelais. Si l'espace public a disparu, ça veut dire que l'architecture doit assumer sa part d'urbanité. Et j'aurais pu faire une lecture de mes projets en disant que ces projets sont non pas des villes idéales, mais en tout cas des villes cohérentes, qui ont des rapports cohérents avec la ville. Alors maintenant, pourquoi l'espace public a disparu ? Le premier symptôme de ça, c'est que tout le monde en parle. Et surtout, la communication politique parle maintenant constamment de l'espace public. S'ils en parlent constamment, ça veut dire que la chose a déjà disparu. Alors, comment a-t-elle disparu ? L'espace public est une invention du XIXe siècle. C'est l'espace de la foule. Non, mais...
C'est la place de la Renaissance. Toute la tradition...
Oui, ok, d'accord. Il y avait des places de représentation. La Renaissance, ok. C'est ok. Mais la déambulation, c'est-à-dire la ville, ça correspond à des espaces de représentation, de fêtes, assez codifiés. Je parle de l'espace public, qui est l'espace public du 19e, qui est le boulevard, celui de la déambulation, celui de la neutralité. Il y avait, dans l'espace public de la Renaissance, quelque chose d'exemplaire. La place de Florence, avec ses sculptures magnifiques, la loge et l'hôtel de ville.
Je crois que c'est aussi, malgré tout... Vous voyez, c'était quand même aussi, donc, dans la Florence de la Renaissance, l'espace public, l'espace du politique. Vous voyez, c'est l'espace, donc, où effectivement les gens donnaient leurs opinions, les gens où ils se mettaient en scène, vous voyez, où ils savaient, où c'est bien la distinction entre se tenir dans un espace public et puis être dans un espace privé. Aujourd'hui, c'est évident que quand on se promène dans la rue.
Richard, c'est vrai, je voudrais compléter. Tu as raison, c'est un espace politique. L'espace du 19e siècle était un espace marchand. C'est un espace neutre. C'était aussi l'idée que la métropole, c'était là où tous les destins pouvaient se réaliser, mais où tout se pouvait se cacher. Dans l'espace idéalisé de la Renaissance dont tu parles, c'est tous viennent pour communiquer leurs idées ou pour avoir une idée très élevée de la cité, et en particulier de ses dirigeants et des rapports entre des dirigeants et la foule. Dans l'espace de la grande métropole, qui est la métropole américaine ou la métropole européenne, ce sont des avenues sans fin, c'est quelque chose qui n'a plus ce sens. Cette incarnation, les grandes statues, les décorations, cette stratification du sens. Bon. Donc, je me place dans cet espace marchand de la déambulation, un peu à la Benjamin, plutôt à Walter Benjamin, plutôt que... ceci fait encore les grandes métropoles. Ceci fait New York, par exemple. Cet espace qui est alternatif. New York, à la limite, tient par la neutralité de sa grille et de ses grandes avenues, qui est soumise à une pure logique marchande. C'est-à-dire, les rues sont animées là où il y a de la boutique. Elles sont pas, les rues à New York, elles ne sont pas animées par une place avec l'opéra, par une place avec une église, par une place avec l'hôtel de ville, etc. Vous le connaissez, l'hôtel de ville à New York, il est dans un endroit sordide. L'opéra, il est mal vu. La cathédrale, vous la connaissez, mais elle est bon, bref. Voilà. Non, mais justement, il n'y a pas ces dispositions. C'est tout. La modernité, la métropolisation va vers le régime du neutre. Et c'est très bien. C'est moteur d'une chose. Maintenant, pour en revenir à l'abandon de tout ça. Je ne veux pas faire de grands discours. Représentez-vous ce qu'est Paris maintenant. Il y a eu une spécialisation de l'espace public dans la signalisation. Tous les bâtiments historiques maintenant sont repérés, signalisés. Une plaque va vous expliquer ce que c'est. Donc il y a une espèce d'impératif culturel. On vous dit, tel bâtiment a été construit là, etc. Bon, très bien. Il y a des panneaux de la ville d'information qui vous disent, couvrez-vous bien, il va faire froid. Prévention contre le sida, etc., etc. Attention, taux de pollinisation du chêne, du truc, du machin, tant de pourcents. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais on s'en fout. Les femmes enceintes devraient faire attention. Des conneries qui transforment les gens en malades potentiels. Toujours des messages alarmistes. Il y a ça partout maintenant à Paris. Il y a de la publicité. Pourquoi il y a de la publicité et un effort, un développement de la publicité? Parce qu'il y a le Vélib, en gros. Vous savez, le deal avec Deco, vous faites le Vélib et on vous donne des espaces publicitaires. Bon. Il y a le Vélib. Moi, je suis tout à fait pour le vélo à Paris. J'ai aucun problème avec ça. J'en fais pas, mais j'adore les vélos. Je trouve ça très bien. Les filles en vélo en été, je trouve ça formidable. Je vois pas pourquoi on va favoriser une toute petite partie de la population qui vont faire une toute petite fraction des trajets qui se font en ville. La métropole appartenant à tout le monde. Surtout Paris, on a décidé que tous les réseaux allaient se croiser à Paris. Donc il y a un investissement sur le trottoir, les aménagements de trottoir pour les vélos, etc. Pourquoi les vélos? C'est pas plus écologique qu'autre chose, hein. Ni socialement correct, puisque c'est fabriqué en Hongrie avec des conditions. Non, mais je ne parle pas de la voiture. On ne justifie pas l'un en détruisant l'autre. Je veux dire, ça n'a pas empêché la voiture. Bon, ça a vidé le bus et le métro. Les gens qui emploient le vélo, ils n'avaient pas la voiture avant. Moi aussi, je suis contre la voiture. C'est complètement con, la voiture. Je n'utilise pas de voiture. Donc, mais je n'utilise pas de vélo pour autant. Donc, mais je pourrais, peu importe. Le débat ne se passe pas là. Le débat, c'est la spécialisation. Il n'y a plus un mètre carré de trottoir qui ne soit pas affecté à une fonction. Prenez quelques boulevards, le boulevard de l'hôpital. Allez maintenant à une gare. C'est impossible de circuler sans changer trois fois de site. On est constamment en infraction. Prenez tous les plans, nouveaux plans de développement de la ville maintenant. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des grands jardins avec de l'eau, des lacs, des noues, des arbres, des bancs, des jets d'eau, tout. Les bâtiments derrière apparaissent légèrement. On fait un bâtiment là à Paris, on est en train de faire les perspectives là actuellement pour remontrer, pour le permis de construire. On nous a demandé, la ville nous a demandé de mettre tout le matériel urbain. Quand on mettait tout le matériel urbain, vous ne voyez plus le bâtiment. Alors, il y a une grande théorie, il y a une grande théorie développée par Yves Lyon et tout ça, que l'espace, seul l'espace public compte, l'architecture ne compte pas. Finalement, l'architecture est là pour servir l'espace public. L'espace public a été, est devenu un projet. Il n'y a plus un revêtement qui ne change pas de matériaux tous les 20 cm. Il n'y a plus un mètre de trottoir à Paris sans un petit potelet. Vous ne pouvez pas vous promener à deux de front sur un trottoir à Paris. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petits potelets. Pourquoi il y a les potelets ? Pour que les voitures ne se mettent pas dessus. Donc c'est une punition générale. Donc, je ne sais pas, peu importe la chose, c'est une punition. Alors il y a sans doute des raisons, on a sans doute péché quelque part, moi je veux bien le croire. Je veux bien mettre en croix, être percé, etc. Je veux bien racheter les péchés du monde. Mais autre chose, il y a les vélos formidables. Pourquoi il y a une signalisation vélo à Paris ? On a mis une signalisation spéciale pour les vélos. Et hop, c'est refait un poteau avec pour les vélos en vert, etc. On a fait des feux spéciaux pour les vélos. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Vous prenez une photo maintenant de Paris, vous avez une profusion de signes là où une ville devrait articuler clairement les rapports entre le sol, l'anonymat de la foule, les bâtiments. Il y a un surinvestissement. Pourquoi ? Parce que c'est le politique qui a décidé de s'occuper de tout le monde et donner des marques de ça, de son action. Ce qui va me faire rigoler, c'est que dans tous ces développements de nouvelles villes, etc., ce qui me fait rigoler, c'est les parcs. Vous avez ces parcs gigantesques, super élaborés. On va dépenser un fric fou, la ville, les villes, pour entretenir tout ça, alors qu'on est incapable d'entretenir les bâtiments dans lesquels les gens habitent. Donc, et que la ville construit. On construit des bâtiments, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'argent pour les entretenir. Donc, on va faire des espaces publics et des grands parcs, on va mettre des sommes folles pour entretenir ça. Un bassin, ça coûte la peau du derrière. Bon, donc, tout ça, c'est ce surinvestissement de l'espace public, c'est quelque chose, moi, et qui est incohérent, qui donne une idée de la ville qui est incohérente. Donc, c'est pour ça que je dis que l'espace public a disparu, c'est pour ça aussi que je dis que l'architecture doit retrouver un rapport à la ville qui redonne une cohérence et une dimension, elle, publique. Voilà. Alors, à Bordeaux, vous êtes relativement, je veux dire, vous n'avez pas ce genre de problème, parce que la ville, c'est une ville qui est constituée, elle est relativement, j'aurais du mal à analyser pourquoi, mais c'est très simple, passer la frontière entre Saint-Sébastien et Biarritz, regardez la différence, les pots de fleurs, comptez les pots de fleurs, les bancs, les trucs. Regardez ce que c'est qu'un espace public à l'espagnol et ce que c'est qu'un espace public à la française. Et vous comprendrez la différence. C'est pas la peine d'aller à Paris. Regardez bien. Et la différence entre les villes espagnoles et les villes françaises, là, sont très éclairantes.
Moi, je suis assez d'accord, effectivement, sur la disparition de l'espace public. Je suis même parfaitement d'accord avec ça, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense qu'effectivement, s'il y a du public, ça veut dire qu'il y a du privé. Effectivement, la ville occidentale, elle repose donc sur l'opposition entre public et privé. Le public, c'est là où on se rencontre, où on se constitue comme une communauté, et puis effectivement, le privé, c'est là où on se singularise comme individu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'architecture, quelque part, si vous voulez, elle est à la limite, donc, entre le privé et le public. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on est obligé de faire appel à un architecte dès qu'on doit faire une façade, hein, puisque c'est celui qui va traiter de cette relation entre le privé et le public. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus d'espace public, tout simplement, puisque c'est un processus qui est extrêmement long, qui a commencé depuis des années, puisqu'effectivement, il y a énormément donc d'activités privées dans l'espace public, puisque finalement, les automobiles, ce sont des habitacles hein, qui colonisent l'espace public. Et effectivement, aussi, donc, de plus en plus, hein, on a plus d'usage public dans l'espace public, c'est-à-dire que l'usage se privatise. On voit des gens donc en train de parler sur leur téléphone portable, de conversations totalement privées. Donc on a tout un phénomène hein, de privatisation de l'espace public. Et le dernier point, effectivement, c'est qu'il y a des pays comme les villes asiatiques, comme les mégapoles asiatiques, Bangkok ou Shenzhen, sont des villes qui connaissent pas du tout l'espace public. Ou même dans les bidonvilles, dans les favelas, il n'y a pas d'espace public. Et aujourd'hui, les deux tiers de la population habitent dans les bidonvilles, et peut-être les 4/5 de la population ne sont plus occidentalisés. Donc effectivement, on bascule complètement dans un monde où l'espace public n'existe plus, et cette perte de l'espace public, c'est évident que ça va avoir des conséquences sur la manière dont on doit penser le projet architectural.
Pas de contestation.
D'autres questions ?
Merci.
Merci Dominique, merci Richard pour cet échange passionnant, quelquefois surprenant.
Je voulais dire un dernier mot. Je voulais remercier Michel, je voulais remercier Francine de m'avoir invité à faire cette exposition. Je voulais que vous preniez conscience, vous n'êtes plus très nombreux, vous n'êtes pas très nombreux, que vous avez un lieu qui montre de l'architecture qui est unique en France. Je n'en connais pas. Et il faudrait que vous preniez... Moi, je remercie les responsables, je remercie l'équipe, qui est une équipe d'Arc en Rêve, qui est une équipe qui s'est beaucoup donnée, avec beaucoup de simplicité et de compétences. Et tout ça s'est fait avec beaucoup de décontraction. Et c'est un lieu qui est fragile. Et je pense qu'il a besoin de votre soutien, vous, en tant que public, en tant qu'électeur, etc., en tant que... vous avez une force de conviction en tant qu'architecte, ou si vous n'êtes pas architecte, en tant qu'autre chose qu'architecte, pour souligner auprès d'autres gens l'importance de ce lieu. Encore une fois, il est fragile. Il y en a très peu en France. Il y en a quelques-uns en Europe. Ça travaille en réseau. Vous avez besoin de ça, il me semble. Et ça singularise votre ville. Ça la distingue.
Merci Dominique. Juste deux informations. Une bonne nouvelle, l'exposition DBL, donc du BC Lyon, sera ouverte finalement, qui devait fermer à la fin le 25 juin, restera ouverte jusqu'au 25 juillet. Et l'autre nouvelle, c'est on vous convie à notre prochaine ouverture qui sera consacrée à l'équipe danoise BIG, Bjarke Ingels Group, et qui donnera lieu à une soirée un peu exceptionnelle, donc le 17 à partir de 18h30, l'ouverture de l'exposition, la conférence et une big party. Voilà, vous êtes invité à retirer des passes pour la soirée à partir de 18h30, donc le 17 juin. Bonne soirée.